Popopien et tous les autres aussi, bonjour. On dit souvent que les montagnes ont tendance à accoucher de souris. Nous allons faire la démonstration aujourd'hui que les montagnes peuvent donner naissance à des sourets. Notre invité s'appelle en effet Montaigne, Marion de son prénom, comme l'écrivain, comme le lycée, comme l'avenue. Avec le premier, elle partage quelques points communs. Elle réfléchit, elle écrit, et il y a une certaine morale à tirer de tout ça. La différence avec son illustre prédécesseur, c'est qu'il ne dessinait pas des Mickey sur ses cahiers. Mais c'est tout à fait normal, puisque comme je le disais, ce sont les montagnes qui accouchent de souris et non pas les Montaigne. Et de toute façon, Montaigne aurait eu du mal à accoucher vu que c'était un garçon. Et qu'en cette époque de patriarcat décomplexé, la question du genre agitait moins le Landerneau qu'aujourd'hui. Marion Montaigne n'est pas davantage un lycée. Même si elle donne la parole à un certain professeur Moustache, un spécimen d'enseignant qu'on aimerait voir plus répandu dans l'éducation nationale, un univers où l'esprit de sérieux a souvent tendance à l'emporter sur le sens de l'humour. Enfin, Marion Montaigne n'est définitivement pas une avenue, ou alors c'est que je me suis mal garé. Tout ça pour dire que tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. 5e volume vient de sortir, titre que vous comprenez mieux, je l'espère, après les explications dont je viens d'enrichir votre culture générale. Marion Montaigne est l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine de Paune.
Et bonjour Marion Montaigne.
Bonjour.
Bonjour, à mes côtés, celle qui est en train de dessiner des monsieur patates sur ses cahiers, Charline Roux, bonjour.
Mais même ça, je ne suis pas capable.
Même ça.
Non, vraiment pas.
C'est
bonjour
vraiment
Antoine, bonjour Marion.
Bonjour. Monsieur patate, c'est un bon début, Marion Montaigne.
Bah, c'est très bien, hein, on fait plein de patates avant de préparer une BD. Ouais.
Bah, vous voyez, faut pas vous décourager.
Non,
ça.
Non.
Au menu également de Popopop, Mélatonine, le pastiche qui met un peu de joie dans la rentrée littéraire. On va en parler avec son auteur, Pascal Fioretto. Mais avant ça, Marion Montaigne. Je sais que vous vous posez plein de questions du type « Peut-on greffer une tête sur un autre corps ? Combien de poils un chat doit-il avoir ? L'orgasme est-il un bon somnifère ?» Pardon. Et cette question, c'est pour vous, c'est quoi la pop culture, Marion? Alors, pour être totalement honnête, hein, j'ai eu des réponses marionnaises, montaigneuses, siantoufeuses et même orgasmissantes. Et parmi mes préférées, il y a celle de Jamie, de C'est pas sorcier, évidemment.
Pop culture, je pense instantanément à la pub. Et je revois ces pubs des années 80, je pense à la pub Eram, pub Evian, pub Perrier de Gainsbourg. Pour moi, c'est vraiment l'archétype de la pop culture.
Et voilà pour Jamie, que j'appellerai toujours Jamie. Voilà, comme j'ai toujours dit Johnny et pas Johnny. Voilà, c'est tout. C'est comme
oui,
ça.
Mais,
c'est comme ça.
Bon. Sauf que Jamie, bon. C'est son prénom pour de vrai.
Enfin bon.
Johnny,
alors,
pas trop.
Selon vous, Marion Montaigne.
Moi, pop, c'est populaire. C'est ce qui, c'est la culture qu'a tout le monde, en fait, que tout le monde partage à un moment donné, donc actuellement.
Donc la culture contemporaine.
Exactement. Oui, et puis surtout qui traverse toutes les tranches sociales, enfin, grosso modo. Enfin, voilà.
Qui touche absolument tout le monde.
Voilà, actuellement.
Très bien.
Pas la pop culture du 19e, enfin, voilà.
Un blockbuster, par exemple.
Voilà.
Ça me convient, ça vous convient, Charlie?
Oui, très bien, c'est bon.
Ok. Alors, la pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Popopop, juste après Stone avec toi. C'est un morceau de Philippe Catherine.
J'aime être Stone avec toi, j'aime être Stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi.
Stone avec toi de l'irremplaçable Philippe Catherine, cet extrait de son tout nouvel album. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une invitée qui, au collège, adorait disséquer délicatement des souris durant le cours de biologie de 8h du matin. Mais qui est cette déviante en blouse blanche qui n'a pas encore les mains attachées dans le dos, hein ? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, c'est votre portrait, Marion, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
Aujourd'hui, une invitée qui prouve à tous les bacs A, L, E, S, B. Oui, je suis très vieille. J'ai passé mon bac il y a très longtemps. Que oui, la science, c'est sexy. Oui, la science, c'est funny. Et que même quand on ne l'a pas infuse, eh ben, il n'y a rien de désespéré. On peut encore se rattraper sans s'assommer. Et ce, grâce au professeur Moustache et son assistant Nathanaël. Pure création de notre invitée, d'abord en ligne, puis en animé, puis en BD. Et elle nous annonce donc que tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Car notre invitée, hautement capée, est passée par les gobelins et spécialisée dans la vulgarisation scientifique. Principe qui ne consiste pas, contrairement à ce que pensait notre bien-aimé réalisateur Ghislain Fontana, à énoncer des horreurs façon Tourette derrière des éprouvettes, mais à aider le commun des mortels dont le cerveau est imperméable à certains phénomènes, à mieux les comprendre. Bref, notre invité est le professeur de sciences rêvées, de sciences humaines aussi, hein, puisqu'elle a contribué aux riches, pourquoi pas toi, des pinceaux Charlot, et spécialiste aussi des grands espaces dans lesquels personne ne vous entendra crier, puisque elle aussi a publié Yuri et Margarine dans l'espace, et quand tout bien tout honneur, elle est aussi allée faire un tour dans la combinaison de Thomas Pesquet. Bref, une invitée qui, à la fin de cette émission, nous a rendu un peu moins cons. Enfin, c'est pas sûr.
Alors moi aussi, je suis dans la combi de Thomas Pesquet, là, au moment où je vous parle. Est-ce que vous me conseillez d'en faire une BD, Marion ?
Ouais, à fond, c'est hyper intéressant.
C'est hyper stressant.
Oh, ouais, non, mais on est peu à pouvoir le faire, oui. Il n'y a pas beaucoup de place.
Hein, c'est difficile. Hein, ouais. Oui, c'est pas Alors Marion Montaigne, je me mets à l'aise, voilà, pour parler de pop culture, car c'est l'heure de votre pop list, une pop list très très pop, vous allez voir. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur La maison près du marais d'Herbert Lieberman, paru en 1984. Charline, le fait que ce roman que l'on doit à l'auteur du génial Nécropolis, qui déjà n'était pas exactement une comédie, soit absolument anxiogène, étouffant et légèrement claustro, en dit-il long sur notre invité ?
Peut-être ! Un couple de retraités vit dans une maison isolée près d'un marais et se prend d'amitié pour un jeune homme, Richard, au point de le laisser s'installer chez eux. Et petit à petit s'immiscer dans leur vie.
Bien. Marion, auriez-vous la gentillesse de nous en lire un extrait, s'il vous plaît ?
Il y avait quelque chose de délibérément méchant dans cette façon d'agir. On eût dit que Richard voulait que nous l'entendions. On eût dit qu'il voulait nous tourmenter et nous narguer, qu'il cherchait à nous faire peur avant de s'en retourner ensuite en ricanant. Comme s'il l'avait voulu dire, pas cette fois-ci, une autre fois peut-être. Mais il y eut une autre fois, et même plusieurs autres fois, mais jamais il n'entra. Il se contentait de s'arrêter et d'attendre de l'autre côté de la porte en respirant si fort que nous pouvions l'entendre.
Marion Montaigne, le fait que ce roman soit anxiogène, étouffant et légèrement claustro, en dit-il long sur vous ?
Oui, surtout qu'en plus, je crois que je l'ai lu à 14 ans et ça m'avait beaucoup plu parce que je pense que, enfin, les deux petits retraités qui découvrent qu'il y a un type qui vit dans leur cave de leur nouvelle maison pensent qu'ils sont des gens très bons, très gentils. Ils vont essayer de tout faire pour le recevoir et en fait, ils vont se rendre compte que c'est des brutes comme les autres en fait. Ils vont plus pouvoir le supporter. Et quand on a 14 ans, on sait qu'on est fucké de la tête déjà. Ça nous plaît.
C'est le livre qui vous a marqué.
Ben oui, ben sinon je vous aurais pu vous sortir un Victor Hugo, mais je me suis dit que j'avais aussi ça, qui m'avait marqué. Ça, c'est l'un des livres que j'ai lu le plus de fois.
D'accord, ça s'appelle La maison près du marais d'Herbert Lieberman. Passons au film. Pour le film, vous avez choisi Terminator 2, réalisé par James Cameron, sorti en 91. Charline, le fait qu'il s'agisse là encore d'un film anxiogène, limite apocalyptique, nous renseigne-t-il sur la psyché perturbée de notre invité ou bien...
Peut-être un nouveau Terminator. Le T-1000 est envoyé de 2029, pour éliminer John Connor, futur leader de la résistance humaine. Ce dernier a lui programmé un autre cyborg, le T-800, et l'envoie également en 1995 pour se protéger.
Les survivants de l'incendie nucléaire ne vécurent que pour affronter la guerre du jugement dernier.
Qui t'a envoyé ?
Toi. Baisse-toi. Viens avec moi si tu veux vivre.
Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas.
Pourquoi ? Je suis un Terminator. Hasta la vista, baby. Je vais revenir.
Merci à la traduction.
Il n'aurait échappé à personne qu'il s'agissait là de la version française. Bon, Marion Montaigne, le fait que ce film soit anxiogène, limite apocalyptique, nous renseigne-t-il sur votre psyché personnelle?
Vous êtes en train de me dire que je vous ai dit que des trucs que j'ai lu et vu à 14 ans. En fait, je crois que j'ai eu un problème à 14 ans. Non, mais c'est génial, je crois que j'ai vu 43 000 fois ce film.
Le 2, hein, on parle du 2.
Ah oui, le 2.
Avec Edouard Furlong.
Alors, peut-être que j'étais aussi amoureuse d'Edouard Furlong. Mmh. Maintenant, un peu moins, parce qu'il...
Mais il fait moins de choses, on va dire.
Mais ça, c'était les premiers effets spéciaux en 3D. C'était hallucinant. Mmh. Il est juste parfait, ce film. J'adore.
Avec le très méchant qui devenait liquide. C'est ça,
qui devenait liquide,
hein,
comme en Mercure, le Timmy. Mmh.
Bien. Robert Patrick. J'ai un livre, j'ai un film. Il me faut une série. Pour la série, vous choisissez une série culte qui fait son entrée dans notre pop list.
Ouah, putain, truc de...
Mais oui, truc de ouf, puisque vous avez choisi MacGyver, une série vintage créée par Lee David Zlotoff, diffusée entre 85 et 92. Et voici enfin une éclaircie dans ce ciel tourmenté de cette pop-liste de Marion Montaigne. Ce bon vieux MacGyver, dont le nom est entré dans le langage courant. Ne dit-on pas un individu qui peine à ouvrir une boîte de sardines? Dis donc, t'as pas pris option MacGyver au bac, toi? Réflexion qui provoque toujours des réactions amusées, comme c'est encore le cas. Merci, Charline.
Oui. Un homme et sa coupe mulet travaillent pour la Fondation Phoenix et font preuve d'une grande ingéniosité pour se sortir de toutes les situations compliquées.
On l'aura reconnu aussi ici, il s'agit de la version française. Alors pourquoi choisir cette coupe mulet, Marion Montaigne?
Mais il était trop beau, il a eu plusieurs étapes. Attendez, j'étais fan de Richard Dean Anderson, mm-hmm. J'avais tout l'été 7 jours avec lui en couverture. Je les ai encore quelque part. Et il n'a pas eu qu'un mulet, il a eu plusieurs périodes et à un moment il avait les cheveux courts, il était très bien, il est parfait, monsieur Richard.
Donc mais au-delà des considérations capillaires, la série vous plaisait beaucoup?
Ah non, mais il était pur, il respectait les femmes, il n'utilisait pas d'armes à feu, il était très malin. Je suis retombée dessus, c'est un peu lent, mais il est charmant, ce monsieur.
Et est-ce que vous avez testé les petites astuces qu'il met en pratique? Parce que maintenant, vous êtes en âge de vérifier si tout ça fonctionne.
Alors, j'y ai jamais pensé.
Si l'hélicoptère est trop bonne, c'est possible.
Je pourrais essayer. Je crois qu'il y en a qui ont essayé dans les trucs dans Mythbusters. Beaucoup de choses explosées quand même, je sais pas si c'est...
Marion Montaigne, terminons cette pop-liste avec votre chanson culte. Et là, vous hésitez entre deux gros classiques. D'un côté, ceci. Don't cry, boys, don't cry, The Cure. Et puis de l'autre côté, ça.
Elle dit que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours.
Et là, on parle de vice et versa, hein, des inconnus. Donc, il faut trancher, comme on dit chez le boucher, / prof de SVT, Marion Montaigne.
Non, je peux pas, parce que quand j'ai donné Cure, j'ai vu Didier Bourdon se rouler sur un lit. Des références de vieux, je suis désolée.
Robert Smith.
Oui, mais ils avaient un clip comme ça où ils les imitaient. Et après, je me suis dit, tiens, je vais aller revoir la vidéo de vice et versa. Et là, j'ai répondu à votre mail. Après, j'ai regretté. Non, mais elle est incroyable, cette chanson.
Les deux vous plaisent, donc on garde les deux.
Oui, puis elles ont le même dynamisme nostalgique très profond de ma jeunesse.
Je sens un petit fond de nostalgie. Vous avez fait des choix.
C'est culte pour moi ou culte pour les gens que je devais dire?
Pour vous.
Moi. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Ils étaient super drôles, les inconnus, à refaire des pastiches. Donc voilà, c'est surtout qu'il y a eu une fusion entre Cure, Didier Bourdon et vice-versa. Et donc je vous ai mis les deux parce que j'arrive pas à les départager dans mon cœur.
Très bien. Alors je résume la maison près du marais, Terminator 2. MacGyver, Boys Don't Cry et Les Inconnus. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Les survivants de l'incendie nucléaire ne vécurent que pour affronter la guerre du jugement dernier.
Ton espoir n'est pas si désespéré.
On lui dit que Richard voulait que nous l'entendions. On lui dit qu'il voulait nous tourmenter et nous narguer. qui cherchait à nous faire peur.
Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas.
D'où venons-nous? Où allons-nous? J'ignore de le savoir.
Je vais revenir.
Ça vous rassure sur votre état mental?
Absolument.
Marion?
J'aurais dû répondre plus sérieusement à vos questions du Victor Hugo ou un truc comme
non,
ça.
Non, ça nous va très bien, nous. Bon, Marion Montaigne, j'aime faire plaisir à mes invités dans la limite du raisonnable, bien sûr, et de la légalité. Je voulais vous jouer le morceau Vice-versa des Inconnus, mais comme tous les programmateurs musicaux de la station me sont tombés sur le dos, je vous propose d'écouter les Cure.
Antoine Decaune
et Charline Roux. Blog, Instagram, BD sont les premiers résultats qui tombent sur Google quand on tape votre nom, Marion Montaigne. Pas trop déçu?
Non, c'est normal, oui, non. Je préfère ça qu'une photo à poil, quoi.
Ah, oui, mais justement, pas de nu, ni franc-maçon. Ouais. Vous n'avez pas l'impression d'être passé un peu à côté de votre irréputation?
Non, les auteurs de BD, s'ils pouvaient se planquer toute leur vie, je pense que... Non, non, on n'est pas très, ouf.
Alors, Marion Montaigne, j'ai dans les mains le tome 5 de Tumour rat moins bête, une BD qui donne les réponses essentielles à nos questions existentielles. Quelle est votre question préférée à vous?
Ah, parmi tout ce que j'ai
oui, soit,
fait...
ou la question que vous vous posez encore, ou la question la plus importante à vos yeux.
Ah, la plus importante. Attendez, moi j'aime beaucoup celle, parce que ça a été une vraie enquête, qui demande vraiment si les corbeaux sont vraiment peuvent remplacer les pigeons voyageurs, surtout dans Game of Thrones, parce que voilà pourquoi j'ai pas dit que c'était ma série culte, parce que je l'ai regardé en disant mais pourquoi ils utilisent des corbeaux. Alors j'ai demandé à une éthologue qui m'a dit ouais, les corbeaux ils sont assez intelligents pour faire ça, on pourrait les dresser, mais comme ils sont carnassiers, ils risquent de s'arrêter tout le temps pour aller manger, tandis que le pigeon est plus focus, quoi. Il est un peu
objectif.
Voilà, ouais. Il veut rejoindre son couple, donc il rentre directement chez lui. Mais donc il se plante totalement dans cette série, donc j'ai complètement déconnecté, je préfère MacGyver.
Donc c'est c'est à partir de petites questions comme ça que...
Oui, que je me gâche la vie, oui.
Mais pas celle des autres, je vous rassure.
Je suis aussi noche et je me dis, alors déjà il n'a pas fermé la porte du frigo, ça m'énerve. Il rentre chez lui, tout est allumé, c'est pas normal. Et des questions comme ça en me disant, mais il devrait faire une septicémie, là, faut pas faire ça, est-ce qu'il faut vraiment soigner?
C'est ça que vous appelez le syndrome de la dissection? Vous souffrez du syndrome de la dissection, c'est quoi? Et surtout, est-ce que c'est dangereux pour nous?
J'avais rencontré un psychanalyste qui me fait, mais en fait, t'as le syndrome de la dissection, parce que j'avais bien aimé disséquer au collège. Et je crois que j'aime bien comprendre comment les trucs sont faits. Ouais, la machine qui distribue les billets, par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait une vitre pour voir comment ça marche. Ça doit pas être très compliqué. Mais j'aime bien comprendre comment sont faits les trucs, comment ça fonctionne, comment c'est bidouillé à l'intérieur. Voilà, c'est
moi, ma question, par exemple, c'est de savoir si la lumière du frigo reste allumée quand je ferme la porte.
Non.
Comment le savez-vous?
Bah parce qu'on la voit s'allumer, comme le four.
Ah non, moi quand je
parce qu'il y a le petit bouton, il y a l'espèce de petit bouton quand la porte s'appuie dessus.
Rien ne me le prouve.
On peut faire une expérience si vous voulez.
Marion Montaigne, votre professeur moustache, votre professeur moustache est un mix entre la fille illégitime d'Alfred Einstein et de Stephen Hawking.
D'Albert, pardon.
Oui, c'est Albert. Moi qui ai écrit la bio sur la vie.
On part mal, non?
Non, on a mis le niveau assez haut, ouais. En tant qu'à déconner, autant y aller à fond.
Mais alors, faisons un peu d'histoire en plus des sciences. Comment et quand il est né, ce professeur moustache?
En fait, il est né plutôt en 2008, un été où j'avais plein de notes sur des articles scientifiques que je lisais, sur des recherches que j'avais fait comme ça, à partir de films où je me posais la question en me disant, est-ce que c'est vraiment possible qu'un lézard de 43 mètres détruise une ville sans manger? Ça doit énormément manger, ça doit énormément boire. Et donc, je l'ai rassemblé, j'en ai fait un blog avec un... Il fallait un petit professeur pour parler, donc c'est une sorte d'alter ego malsain, un peu bizarre.
En fait, ce professeur moustache, c'est le prof de SVT dont rêvent tous les élèves de 6e à la Massy. Vous savez, la place de ce monsieur Bernard avec sa blouse trouée, son haleine un peu chargée, et puis ses cours de dissection de crapaud le lundi matin à 8h30, non?
C'est bien, la dissection crapaud, moi j'avais vachement aimé.
Ça vous plaît, hein. C'est fini, on n'a plus le droit de disséquer des crapauds.
Non, c'est pas très végane, mais c'est hyper intéressant. Non, mais le prof ne suit pas trop le programme scolaire. Après, des fois, il insulte un peu ses lecteurs, qu'il prend un peu pour... ce professeur se ment à lui-même aussi. Il est un peu très de mauvaise foi. Des fois, moi, je me rends dans des labos et je fais genre, je suis à niveau, mais je comprends rien. Donc, je représente aussi ce prof vraiment qui se dit, je vais tout comprendre. Mais prof, ouais, le lycée, oui, ça irait un peu dans tous les sens, mais.
Parce que la mécanique, c'est que ce professeur reçoit des cartes postales sur lesquelles il y a des questions auxquelles il doit répondre. Qu'est-ce qui vous dicte les sujets? Est-ce que ce sont vos interrogations seules ou l'actu aussi peut parfois provoquer
Alors, il y a l'actu,
des développements?
Ouais, il y a l'actu, il y a les trucs que je lis, la pop culture par exemple. Mm-hmm. Et puis il y a les articles, il y a plein de sites qui référencient des articles, mais absolument scientifiques, vraiment bizarres. Il y a même des sites consacrés aux recherches les plus tordues, où ils font même des clubs de scientifiques très chevelus. Ils ont des concours où plus ils ont de barbe, plus ils sont contents. Et donc ils ont des recherches...
Vous y êtes inscrite?
Non, parce que je suis pas chercheuse, mais ouais.
Je n'ai pas barbu.
Non, mais on peut s'arranger.
Je crois.
Bientôt, une pause, bientôt. Vous savez pas du tout en fait. Et donc, y a plein de sites qui référencient. Maintenant, les recherches sont mises sur Internet, donc vous y avez accès. Moi, j'adore aller chercher des trucs comme ça, mais il y a des trucs, mais on n'a pas idée de ce qu'ils font.
Par exemple, dans le tome 5, y a des chapitres dédiés au clitoris et au désir féminin. Est-ce que c'est par prévenance ou par militantisme?
Par prévenance? Ah non, mais oui, c'est un peu par militantisme, parce que en fait, il y a peu d'adolescents et même d'adultes qui savent que en fait, chez la femme, le clitoris est un organe assez grand. En fait, depuis seulement 98, ils ont eu l'idée de le mettre dans un IRM pour vraiment regarder comment c'est fait. Et en fait, ça a une forme de papillon et c'est lui qui domine, j'ai presque envie de dire, parce qu'il encadre tout. Il faudrait que je vous fasse un dessin. Enfin, je vous avais... enfin, ça, vraiment, ça,
c'est grand, moins
c'est bête, grand, ouais. Et ça bouge. En plus, ça bouge tout seul. Enfin, pas tout seul.
Et voilà, comment effrayer des générations de gamines maintenant. Bravo, Marion.
Il faut les stimuler. Bon, alors, ce professeur moustache est un professeur à la pilosité hors norme, donc, qui répond scientifiquement aux questions que, comme le disait Charline, personne n'ose s'opposer. Par exemple, l'orgasme est-il un bon somnifère? Alors, utiliser l'humour, c'est un bon moyen d'apprendre en s'amusant, comme dit Jérôme Niel.
Salut, bande de salopes! Avec les tutos, on apprend en s'amusant!
Oui, mais alors, sans la vulgarité.
Ah, mais c'est pas, rire, c'est pas forcément se moquer, puis c'est pas... Si, un peu, des fois. Non, mais c'est une manière d'un peu raccourcir la distance, parce que, enfin, moi, quand j'étais au collège, j'avais l'impression que la science, c'était pour les génies, que c'était des vieux barbus qui savaient tout, et moi, je savais rien, et donc, j'avais pas le droit de savoir leur science, et en fait, c'est moi, je trouve que c'est faux, c'est frustrant de se dire, parce qu'on n'a pas le niveau, qu'on ne peut pas comprendre tout ce qui se fait actuellement. En plus, dans notre vie de tous les jours, il y a plein de trucs scientifiques. Enfin, il y a même de la génétique avec la PMA, vous avez des reconnaissances faciales partout. Donc, moi, je trouve que l'humour permet de rendre plus proche. Et puis surtout, ça va, on peut en parler, on a le droit d'en parler. Puis même de la critiquer, puis de s'en moquer. Puis, c'est pas sacré, c'est pas...
Et puis d'apprendre à comprendre, comme vous le faites.
Oui, puis ça...
Donner les clés.
Ça fait du bien quand vous avez compris quelque chose. Quand vous lisez un bouquin d'astrophysique, vous avez rien compris, puis tout d'un coup, vous comprenez un truc, vous faites « Ah, mon Dieu, vous êtes fier, vous êtes content pour la journée, enfin, au moins 10 minutes. » Puis ça vous fait oublier votre condition de misérable humain pendant 2-3 minutes.
Pour prendre un autre exemple concret, cette carte envoyée par Relou 4000, dont on sait qu'il s'agit du pseudo sur les réseaux d'un certain Antoine Dessé, quelle méthodologie est-ce que vous utilisez pour répondre à « Cher prof, quand je lis les journaux, un coup on me dit que les jeux vidéo rendent violents et un coup c'est l'inverse, mais comment ils font dans les labos d'abord pour vérifier ça ?»
Alors celle-là, j'en ai bavé.
C'est une vraie question d'actu en plus pour le coup.
Alors je me suis dit, tiens, est-ce que les jeux vidéo rendent violents ? La question hyper dure à relever. Et je me suis documentée. Alors j'ai cherché plein de recherches scientifiques qui essaient d'interroger ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est plutôt la manière dont ils le font. Par exemple, en psychologie, ils ont des tests. C'est un peu difficile de savoir si quelqu'un devient violent juste après avoir joué un jeu vidéo. Est-ce qu'il est juste de mauvais poil ou juste il aime pas le chercheur? Ben, ils ont des trucs comme ça. Ils regardent si après, quand vous allez faire vos courses, vous achetez plus de produits d'hygiène. Et ça, c'est la théorie, comme quoi vous avez besoin de vous laver parce que vous culpabilisez, mais en vérité, vous êtes peut-être juste, vous avez sué parce que vous avez beaucoup. Peut-être qu'il faisait trop chaud. Enfin, il y a plein de biais qui sont vraiment marrants. Donc, non, mais il y a plein de recherches avec des IRM pour voir si on réagit différemment. Mais après, c'est très compliqué parce qu'il y a aussi, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, mais c'est aussi sociétal, en fait. Qui joue, pourquoi
Vous recevez maintenant des vraies demandes de gens qui vous posent des questions auxquelles ils vous demandent de répondre, soit dans les bouquins.
Professeur Moustache, ouais. J'ai
des courriers, et des fois, c'est bizarre, parce qu'il y en a qui pensent que je suis vraiment médecin, donc il y en a qui m'envoient des photos de leur mélanome en disant... Est-ce que je dois aller à l'hôpital? Et là, je fais, écoutez, allez voir un médecin.
Allez-y, ça marche pas. Marion Montaigne, la pop culture, c'est l'adaptation. Et ce pop professeur a été adapté en série animée sur Arte depuis 2016 avec la voix de François Morel. Alors, je prends une question au hasard. L'homosexualité est-elle contre nature? Extrait.
Très tôt, les éthologues ont remarqué des comportements homosexuels dans la nature.
Que font donc ces deux singes mâles?
Mais soit par ignorance, soit par pudeur, ils gardèrent ces observations pour eux.
Je crois que celui de dessus est de l'autre à recracher pour pas qu'il s'étouffe.
Pas crache ta cacahuète ! Crache !
Ah, c'est donc ça, c'est une histoire d'aide pour aider à recracher des cacahuètes, c'est ça ?
Oui, bah, sans l'image, c'est un peu dur, mais... oui, voilà, c'est tout à fait ça. Non, mais ça a été beaucoup observé dans la nature et pendant très longtemps, on n'osait pas le publier, tout simplement. Et on pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces connaissent des comportements homosexuels. C'est juste qu'il faudrait beaucoup, beaucoup d'heures pour l'observer et qu'on n'a pas assez, ils n'ont pas assez d'argent ou de moyens. C'est très répandu.
Tu mourras moins bête, c'est de la vulgarisation scientifique trash, parfois méchante, mais jamais bête. C'est ça.
Merci.
Le pitch ?
Voilà. Non, oui, c'est vraiment s'amuser, comme si c'était un copain chercheur qui vous racontait de manière très cool ce qu'il fait et vous faites des blagues en discutant avec lui. Donc c'est un peu ça, moi, c'est ce que je fais quand je vois un chercheur. Quand il aime son travail, on rigole, on parle de son travail, on essaye d'imaginer ce que sera, comment c'était avant, comment ça pourrait être dans le futur. C'est très stimulant, en fait.
À quel public s'adresse « Tu mourras moins bête » ?
Alors, avec l'éditeur, on pensait qu'on était ado-adulte. Mmh. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de jeunes, probablement avec la série, qui regardent. Donc, en dédicace, j'ai des fois des 8-9 ans et je leur dis, mais...
Bon, voilà. Mais c'est pas fait pour toi, je vais te faire un dessin.
Vous leur dites quoi?
Ben, je vais te dessiner un gros clitoris. Non, mais je suis étonnée. Puis en fait, ils sont non, mais je comprends tout. Ça dépend des parents.
Et puisqu'on parle de l'animé, je crois que la nouvelle saison arrive en même temps que le tome 5.
Ouais,
c'est ça, sur Arte.
Elle est en train d'être produite. Elle devrait en printemps 2020.
Marion Montaigne, votre cerveau bouillonne. Vous avez récemment googlisé des études sur la longueur des cils. Vous avez découvert que ces cils ne bloquaient pas la poussière. Et vous vous êtes demandé si ça pouvait changer en mettant beaucoup de mascara. Alors, moi, j'ai une question simple.
C'est vrai, cette histoire.
À quoi ressemble votre historique Internet?
Oh, je crois que je dois être fichée. Je sais, il y a des bazookas, il y a des maladies, il y a des trucs nucléaires. Je suis très mal barrée. Non, c'est sale. C'est très sale. En plus, moi, j'aime bien mettre des images dans les bibliographies, donc c'est dégueulasse. Non, c'est vraiment, il y a de tout, hein, mais il y a à boire et à manger. Hein.
Et surtout, qu'est-ce que vous faites quand vous ne vous posez pas de questions? Est-ce que ça vous arrive?
Oui, bah, je fais la cuisine, des trucs cons. Non, mais c'est un truc d'anxieux, je pense. Hein. Mais c'est infernal au cinéma. J'essaie de me taire, mais où je regarde aussi des trucs. Non, je lis. Non, le pire, c'est que je me pose toujours des questions parce que je lis aussi des trucs pour la prochaine fois. Mais c'est fatigant.
Ça va être un cauchemar d'aller voir un film de science-fiction avec vous.
Non, je me. Oui. Ouais. Oui. Oui, mais c'est vraiment chiant.
Le tome 5 de Tu mourras moins bête, c'est édité chez Delcourt. Le sous-titre, c'est Tu mourras moins bête. Quand il y en a plus, il y en a encore.
Oui.
Hein, ouais, c'est important. C'est important. C'est tiens, vous qui êtes si scientifique, vous pouvez me dire comment vous analysez ce pop? Écoutez-le.
C'est un appel d'air, ça, non? Je sais pas.
C'est un petit appel d'air, oui. Petite libération.
Petite peau tendue qui se détend.
Petite peau tendue qui se détend. Très bien. Vous êtes capable de le faire ou pas?
Oui.
Ben oui, ouais, très bien. Facile. Bravo, merci. C'est pour lancer les pop news.
Encore une nouvelle adaptation de Stephen King pour le petit écran, et cette fois c'est son roman Outsider qui a droit à son traitement télé, une série HBO sous forme de thriller fantastique et bien flippant, l'histoire de deux policiers que tout oppose qui vont devoir faire équipe pour résoudre un meurtre particulièrement sordide, comme par hasard, alors qu'une force surnaturelle tente de se frayer un chemin dans cette affaire.
Terrence Maitland, I'm arresting you for the murder of Frankie Peterson.
For the what?
I'm as baffled by this conflicting evidence as you are. His prints are all over the crime scene. The TV footage puts him 60 miles away.
He can't have been in two places at once.
The Outsider avec Jason Bateman, Ben Mendelsohn et Cynthia Erivo, ce sera en janvier sur OCS.
Avis aux amateurs de belles choses et aux collectionneurs, les éditions Monsieur Toussaint d'Ouverture s'apprêtent à publier l'édition limitée Créature de Moi ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris, avec entre autres sa magnifique jaquette inspirée du tableau Œdipe et le Sphinx, crayonné comme il se doit par Émile Ferris. Il va falloir se précipiter puisque cette édition spéciale sera tirée seulement à 3333 exemplaires. Rendez-vous en librairie le 7 novembre.
Pourquoi Lost, c'est génial? Une question à laquelle j'ai personnellement la réponse, mais c'est aussi le nom d'une super série, une analyse de Lost épisode par épisode, tous les dimanches, ou presque, sur YouTube.
Imaginée à l'origine comme une version fictionnelle de la télé-réalité Survivor, les créateurs J.J. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber choisissent de se démarquer dès les premières minutes. L'île sur laquelle on atterrit nos clichés sur pattes n'est pas normale. Y a-t-il un monstre sur cette île? Pourquoi y a-t-il un ours polaire? C'est quoi ce message en français qui tourne en boucle? En gros...
Guys... Where are we?
Et la réponse peut-être à toutes ces questions est donc sur le compte YouTube dédié Pourquoi Lost c'est génial.
We have to go back, Kate.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Oui, c'est. J'ai perdu le moi. Lost perdu.
Ah,
ouais, merci Charline. Oui. Marion Montaigne, non. Vous restez avec nous. On va parler de Pastiche et de Michel Houellebecq dans la suite de Pop 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 juste après Three Times the Charm, c'est des Stray Cats.
I saw her once, twice, three times. Walking down the street looking so fine. She was rocking. Yeah, man, she was rocking. Talked her into taking a ride. She was shocking. I mean, her figure was shocking. I walked the fire along. You know, three times a charm. Well, we rocked to the clock at 11, 12. When Sleepy Town stops to slumber. She said, it's almost 3 in the morning. I said, 3 is my lucky number. I kissed her once, twice, three times. Yes, I drove them right out of my mind. Yeah, man, we was rocking. And now she's on my arm. You know, three times a charm. Yeah. Ah!
kissed her once, twice, three times. Yeah, she drove me right out of my mind. We was rocking. Yeah, man, we was rocking. And now she's on my arm. And you know, three times a charm. I kissed her once, twice.
Three Times a Charm, c'est extrait de Forty, l'album des Stray Cats sorti cette année. Je signale aussi qu'il y a un coffret Runaway Boys, coffret qui ressort en édition luxe pour le 40e anniversaire du groupe avec une édition vinyle absolument collector. Bien, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite donc la culture de façon... Nous sommes toujours en compagnie de Marion Montaigne et vient de nous rejoindre Pascal Fioretto qui publie aux éditions Robert Laffont Mélatonine. C'est un roman accompagné de la mention pastiche. Charline, mon petit,
oui.
Je sais que j'abuse et que ce n'est pas dans vos cordes, mais auriez-vous la gentillesse de nous en lire la première page et plus vite que sa petite conne?
Je pensais que vous n'iriez pas au bout.
Mais c'est toujours.
Il me semble aujourd'hui que tout a commencé lors d'un dîner dans un néo-bistrot du 11e arrondissement de Paris. Cynthia était une jeune étudiante en littérature contemporaine qui achevait une thèse sur moi. Je ne sais plus comment elle s'était procuré mon adresse mail secrète, par Edoui Plenel peut-être, ni pourquoi j'avais accepté ce dîner. Je m'emmerdais à la maison avec Ilga, ma traductrice polonaise que j'avais rencontrée dans une librairie de Tansk, et à qui peut-être, trop imbibée de pivot, de Primorca, pour être précis, j'avais proposé de partager mon duplex du Marais à quelques centaines de mètres du BHV, dans les rayons duquel j'aime me perdre. Enfin, quand je dis je me perds. Il y a longtemps que j'ai repéré où se situe mon rayon préféré, le corner des doudounes Canada Goose, mais j'y reviendrai. Il y avait deux phrases.
C'est l'ouverture du livre. Ouais. C'est l'ouverture de Mélatonine. Évidemment, on s'y croirait, mais sauf que c'est pas du Houellebecq.
Non, c'est du Houellebecq.
Houellebecq.
Il lui ressemble. On peut s'y tromper. Enfin, si tout va bien, on peut s'y tromper.
L'idée, c'est qu'on s'y trompe.
Voilà, c'est ça. C'est l'idée, c'est d'essayer de le pasticher, donc de récupérer son style, son vocabulaire, son registre, et surtout la mélodie de sa phrase. Donc là, vous l'avez bien servi. Merci beaucoup, Charline.
Quelques erreurs de prononciation sur le
pastiche, on y est habitué. Le pastiche est un genre qui a ses lettres de noblesse. On pense tout de suite à Proust, hein, mais si l'on fouille un peu, on se rend compte en fait que le monde littéraire fourmille de pastiches. La Bruyère a pastiché Montaigne, pas vous, hein, Marion, ouais. Michel. Pérec a pastiché Baudelaire, Racine a pastiché Corneille, Modiano a pastiché Céline, et je pourrais continuer longtemps comme ça. C'est une discipline à part entière, en fait.
Absolument, ça a une histoire parallèle à celle du roman. On peut même dire que Don Quichotte est un pastiche du roman de chevalerie. On peut dire que Rabelais a pastiché la scolastique, puisqu'il se foutait un peu de leur gueule, faut bien le dire. Parce qu'il y a quand même cette dimension, enfin chez Proust c'est plutôt un exercice d'admiration, mais généralement il y a quand même une dimension satirique en fait. Une volonté de tendre un miroir grossissant, donc on est un peu injuste parce qu'on grossit les traits du modèle et ça donne une caricature qui parfois est plus ressemblante que le portrait en fait.
C'est vraiment pas un exercice facile, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y plier vous?
Je ne sais pas, franchement. Moi, je suis tombé dedans un peu quand j'étais jeune, disons, pour pas dire petit. J'ai appartenu au groupe, au gang des pastiches Jalon. Donc, c'était les pastiches de presse. Ensuite, j'ai fait quelques négritudes. Je sais pas si on peut encore dire ça, mais enfin, j'ai écrit sous. J'ai été porte-plume pour certains. Je me suis dit que c'était pas mal finalement d'écrire caché. Peut-être parce que tout simplement, je suis pas capable d'écrire en mon nom de manière sérieuse. Et d'ailleurs, je suis maintenant définitivement un foutu puisque. Dès que j'essaye de faire une phrase sérieuse, j'ai un petit surmoi sur l'épaule qui me dit « Allons, tu t'es foutu de ça chez Guillaume Musso, chez Marc Lévy, chez Gavalda, tu vas pas nous faire le coup. »
Vous avez peut-être peur qu'on vous pastiche à votre tour. C'est
un peu comme avoir sa marionnette au guignol, hein, être pastiché.
Exactement.
Parce qu'il faut être une tête de gondole pour être pastiché. Il faut avoir la référence pour que ça fonctionne. Donc là, avec un peu de peau, on aura les Houellebecquiens et les anti-Houellebecquiens.
J'ai remarqué que vous attaquez d'ailleurs aux têtes de gondole, hein, Christine Angot, Houellebecq donc, il y a eu Gavalda, il y a eu
à peu près tout le monde, d'Ormesson, Amélie Nothomb. Oh, il y a eu à peu près tous les gros vendeurs. Il m'en reste quelques-uns, mais pour un...
Oui, donc des têtes de gondole.
Oui, c'est ça.
Vous avez une passion particulière pour Venise, peut-être
ou... Non, enfin, cela dit, oui, j'aime beaucoup, mais d'Ormesson aussi, d'ailleurs. Mais à part ça... Non, non, c'est que simplement, encore une fois, il faut avoir le modèle en tête, ou disons une vague idée du modèle pour... Là, j'espère par exemple que les anti-Houellebecquiens vont gagner beaucoup de temps en lisant Houellebecq, puisque c'est théoriquement du jus de
Houellebecq.
Voilà, du concentré.
Mais alors les fans, en revanche, est-ce qu'il n'y a pas de vous les aliéner?
Alors les fans, pour l'instant, j'ai de bons retours des fans, mais je suppose qu'il y aura des mauvais coucheurs qui trouveront que je suis très injuste, et je suis injuste, parce que pour écrire un pastiche, il faut lire d'affilée, là en l'occurrence j'en ai lu 6, plus les poèmes. Là, j'ai pas tout lu. Et donc, évidemment, c'est injuste envers le modèle, puisque même du Mozart ou du Stray Cats, écouter 24 heures sur 24, ça devient insupportable. Oui. Donc, et ensuite, on se met à voir le monde comme Houellebecq. Voilà. Donc, on repère que le prix des pâtes a baissé chez. J'ai chez Intermarché.
J'ai la faiblesse de croire que de penser que les fans de Houellebecq ont le sens de l'humour.
Eh ben, je crois aussi. Ouais, et d'ailleurs, j'ai aussi la faiblesse de penser que Houellebecq a de l'humour, en fait.
Ah
si
oui,
on
ça,
voit
ça,
la
ça
façon dont il joue avec son image.
Ouais, oui, ça, je vous confirme. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la définition que donne Proust du pastiche de la critique littéraire en action?
Absolument. Je crois que c'est vraiment de ça qu'il s'agit.
En fait, c'est plus sérieux qu'il n'y paraît.
Oui. Ouais, mais oui.
Ah oui.
Non, faut pas trop le dire. Mais effectivement, c'est quand même un démontage de l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une thèse de doctorat, il y en a plein sur Houellebecq, dire voilà comment ça marche, en montrant, en le faisant lui-même, en se mettant en action, comme vous dites, c'est effectivement ça aussi le pastiche. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Proust avec Flaubert. Il a dit j'ai dû tuer le Flaubert qui était en moi pour me mettre à écrire comme Proust. Et donc il avait effectivement réussi à récupérer le style de Flaubert. D'ailleurs, ça s'est utilisé dans les lycées, même dans les collèges, je crois. Ici, c'était Niais sorti en édition scolaire, parce que pour les profs de français, c'est un exercice génial de montrer comment écrivent Marc Lévy, enfin tous ces auteurs que les jeunes lisent, et de leur montrer comment fonctionne le style d'auteur contemporain.
C'est le titre que vous aviez choisi, Et si c'était Niais, on disait déjà long sur
oui.
la haute estime en laquelle vous tenez.
Alors, cela dit, Marc Lévy, mais j'assume, Marc Lévy a beaucoup aimé.
J'ai tout compris.
C'est vous qui choisissez les titres aussi?
Hygiène du tube et tout le tremblement pour Nothomb, c'est moi. En revanche, les mauvais jeux de mots sur les noms d'auteurs, ça, on est obligé, en fait. Moi, ce bouquin, j'aurais voulu le signer, évidemment, Michel Houellebecq, mais c'est pas possible parce que, bon, il y a parasitisme commercial. Rimbaud, il y a encore pas si longtemps, faisait Marguerite Durail.
Ouais.
Et personne l'embêtait, alors que c'était très très proche. On aurait dit la couverture des éditions de Minuit, c'était vraiment un produit très proche, une contrefaçon presque.
Marion Montaigne, le pastiche en dessin, c'est quelque chose qui vous amuse, qui vous plaît?
Par exemple,
les Blake et Mortimer, les Hugo Pratt, qui sont refaits quasi à l'identique.
Alors on peut faire de la parodie, enfin c'est ce que je me demandais, s'il n'y avait pas des problèmes de droit d'auteur, mais on a le droit à la citation, la parodie et la caricature. Mais par contre... les éditeurs, on évite de toucher à Tintin parce qu'alors là, les Moulinsard, ils rigolent. Ah oui, mais alors vraiment pas du tout. on n'ose même pas mettre un Milou quelque part, tellement on a peur.
J'aime beaucoup cette phrase.
Voilà. Dans tous les sens du terme.
D'une manière générale, les auteurs que vous parodiez le prennent bien ou pas? Vous avez eu des retours en dehors des inventeurs?
Oui, j'ai eu des retours. Anna Gavalda qui m'a dit oui, effectivement, ma façon de gérer les dialogues, parce qu'elle mettait beaucoup d'incises, et donc au bout d'un moment, on ne savait plus quel était le perso qui parlait. Donc moi, j'avais imaginé que les persos se demandaient eux-mêmes. Mais à qui est cette réplique? C'est toi? Non, ça c'est moi là, puisque j'ai tous les impairs, etc. Donc bon retour. Amélie Nothomb m'a dit mais vous n'avez lu que 15 de mes bouquins. Dégonflé quand même. Voilà, des gens comme ça. Puis il y a des gens qui sont fâchés et notoirement mauvais coucheurs. Bon, je sais pas s'il faut les nommer.
Non,
c'est pas la peine, on s'en fout.
Est-ce qu'il y a encore un auteur que vous aimeriez pasticher, mais que pour l'instant vous n'arrivez pas à attraper littérairement, j'entends.
Je me suis royalement planté avec Beckett. On m'avait demandé ça pour l'édition scolaire de Et si c'était Niais, et j'ai touché la forme mais pas le fond, quoi. C'est-à-dire que vraiment je suis resté à la surface et j'aime beaucoup, mais j'ai pas chopé ni la musique ni le fond. Enfin bon, ça me dépasse.
Puisque vous intéressez cette fois-ci à Michel Houellebecq, qu'est-ce qui caractérise selon vous le style Houellebecq? C'est un certain détachement, de longues descriptions de lieux, du sexe triste, des énumérations de marques, hein? Mais ça on le sait, mais la petite musique houellebecquienne, comment est-ce que vous la définiriez?
C'est, en fait, pour se faire une idée de la façon dont il écrit, il faut l'écouter parler en interview ou même dans les films. Et j'ai essayé d'écrire comme cela. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on entende cette espèce de voix un peu languissante, un peu évanescente, avec des hésitations, des « j'y reviendrai », « je l'ai peut-être déjà dit », etc. Alors qu'évidemment, on se voit que formellement, ces bouquins sont absolument parfaitement réalisés. Ouais. C'est-à-dire que quand il dit « je ne sais plus si je l'ai dit », enfin, c'est évidemment un artefact, mais il y a cette volonté de créer une musique qui n'est qu'à lui. Et d'ailleurs, on me demandait, mais comment pastiche un auteur qui n'a pas de style? Ça, c'est les anti-Houellebecquiens. Je m'élève un peu en faux. Je pense qu'il y a vraiment un style Houellebecq.
Ah oui, c'est moi qu'on puisse dire.
Oui, je crois vraiment que la forme est fondamentale chez Houellebecq, contrairement aux apparences.
Mais je sens du respect et de l'admiration quand vous parlez d'un auteur comme Houellebecq que vous pastichez. Est-ce que vous arriveriez à pasticher un auteur pour lequel vous n'avez aucune estime?
Ça m'est arrivé, mais là, pareil, est-ce qu'il
pas
faut.
De non. Pas de nom. Pas de nom. Bon, Mélatonine, c'est édité chez Robert Laffont. C'est Pascal Fioretto qui en est l'auteur et c'est absolument irrésistible. Mesdames et messieurs, nous approchons de la fin de cette émission et c'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Alors, je vais appeler mon ascenseur. Alors, étage 3, 2, 1 rez-de-chaussée, moins 1, moins 2. Ben voilà, la cave. Jetez-moi ça, c'est ça. Moi, j'en peux plus de cette musique brésilienne. J'en peux vraiment plus. Ah, on y est. Ben, c'est quoi cette pièce toute blanche? Henri! Henri, mon cochon! Mais qu'est-ce que tu fais ligoter sur une paillasse? Quoi? C'est Marion Montaigne qui t'a attaché ici? Et Pascal Fioretto veut faire un pastiche de truisme de Marie d'Argesec? C'est marrant. Quoi? Elle veut te disséquer après l'émission? Eh oui, mais calme-toi, c'est peut-être pour les besoins de la science. Oh, ça va, arrête de faire ta chochotte. Hein. Tiens, je vais te mettre un peu de musique, ça va te détendre. Qu'est-ce que je pourrais mettre là? Tiens, Sébastien Tellier, Cochonville. Bon, d'accord, pas Cochonville. Non, Look, c'est mieux, Look, écoute. Sébastien Tellier, Look, cet extrait de l'album Sexuality. Voilà, c'est l'heure où les Athéniens s'atteignent, hein, comme on dit couramment dans cette émission. Merci Marion Montaigne. Le tome 5 de Tu mourras moins bête, c'est édité chez Delcourt. Merci de nous avoir rendu visite.
Et ben merci à vous.
Et merci aussi à vous, Pascal Fioretto. Mélatonine, c'est édité chez Robert Laffont.
Merci beaucoup.
Voilà pour nos deux pop prescriptions du jour. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Stéphane Beaujat, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, on parle de...
You don't offer French. Mais... You don't even think to call me Godfather.
Marlon Brando avec Samuel Blumenfeld et la jeune chanteuse Pomme. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui font des tutos par un sur YouTube.
Abonnez-vous notre podcast.
Mais non, mais c'est encore Jean Lassalle. Vous perdez toute crédibilité. C'est pas possible, Antoine. On peut pas faire ça à Marlon.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials. 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.